RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'IPI priorise des recherches liées aux objectifs de développement durable ou ODD. La diplomatie scientifique doit donner une solution aux problèmes mondiaux. Le ministère du Commerce a saisi 5 tonnes de graines d'ail emportées. KSP garantit la stabilité économique et politique pour l'investissement. Le gouvernement indonésien encourage la WIB à soutenir l'accélération du développement des pays d'Asie. Et enfin, l'exercice conjoint entre l'armée aérienne indonésienne, TNI AU et US PASAF à Manado. Voici le journal complet. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, d'établir des priorités de recherche dans le domaine de l'alimentation, l'énergie maritime et d'autres biodiversités. La priorité associée à la référence des objectifs de développement durable, ou ODD, comme l'a déclaré le vice des sciences sociales et de l'humanité de LIPI, Trinuka Pujastuti, à la Voix d'Indonésie, en marge de l'atelier sur la diplomatie scientifique à Jakarta, lundi. La priorité de recherche est aussi un défi pour LIPI afin que les résultats de ces recherches puissent être ressentis par d'autres.
Tantangan ke depan dari Pak Peneliti itu adalah bagaimana mendeliver, menyampaikan.
Le défi à venir de LIPI est de savoir comment fournir les résultats de la recherche aux parties prenantes au niveau national et dans le monde dans lequel il n'est pas bilatéral, mais multilatéral. Et ici, le multipolarisé qui est construit par LIPI comme la deuxième piste, il est la grande puissance que nous avons. Selon Trinuka, les résultats de LIPI doivent donner une solution aux problèmes qui sont étudiés afin d'avoir un impact positif pour les intérêts de l'Indonésie et peut être utile pour la communauté internationale. La diplomatie scientifique a le sens important pour le changement global avec les problèmes existants dans de nombreux pays. La science joue un rôle dans la construction de la confiance et de la relation inter-pays. Il a été déclaré par le président par intérim de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, qui est représenté par la joint de sciences sociales et de l'humanité de LIPI, Trinuka Pujastuti, à l'atelier sur la diplomatie scientifique à Jakarta lundi. Trinuka a déclaré que la science devient un pont pour intensifier la coopération internationale en fournissant des solutions à des problèmes comme la pauvreté.
Kalau kita melihat pada tataran global, kita bisa melihat ada.
Si nous voyons le drapeau global, nous pouvons voir qu'il y a une zone multi-contrainte en Afrique, en Asie et une partie de l'Europe et de l'Amérique. Que se passe-t-il si nous mentionnons la zone multi-contrainte? Il y a de gros problèmes, l'air, la démographie, la famine et les problèmes côtiers, même le conflit. Ce sont les problèmes mondiaux et ont été de grands défis que nous n'avons pas pu surmonter. En outre, Trinuka Pujastuti explique qu'on sent l'importance de la diplomatie scientifique. L'IPI continue de participer en envoyant plus de 500 chercheurs à de nombreux pays étrangers pour intensifier la coopération internationale. Elle a dit que la science avait un rôle dans le contexte géopolitique et géostratégique de l'État. Le ministère du Commerce a saisi 5 tonnes de plants d'ail emportés qui ont été commercialisés au marché Kramat Jati à l'est de Jakarta. Le haut fonctionnaire du ministère du Commerce, Véry Angriono, a expliqué aux journalistes le 12 mars 2018 au nord de Jakarta que les grains d'ail ne devraient pas être commercialisés et doivent être plantés. Basé sur les résultats de la recherche, l'importateur était autorisé à importer des semences d'ail du ministère de l'Agriculture de 300 tonnes. Actuellement, le ministère du Commerce examine et revérifie les 8 contenants de grains d'ail.
Kami ingin sampaikan kepada para teman-teman bahwa kalau bibit diberikan impor izin bibit ya.
S'ils reçoivent le permis d'importation pour les semences, ils ne doivent pas être vendus au marché parce que nous voulons l'autosuffisance à l'ail. Véry Angriono a aussi expliqué que le gouvernement a publié une politique de facilité d'importation à travers la surveillance de la frontière à l'extérieur de la zone douanière. Par conséquent, il ne donnera pas un compromis aux importateurs qui abusent des règles. Les grains d'ail ont été importés de Chine et entrent en Indonésie par le port de Tanjung Priok. Le chef d'état-major de la présidence, Muldoko, a déclaré qu'actuellement, l'investissement étranger direct, ou FDIDP de l'Union européenne, était le deuxième plus grand en Indonésie. De plus, l'Union européenne est également le quatrième partenaire commercial de l'Indonésie. Muldoko fournit également des garanties de sécurité aux investisseurs qui ont l'intention d'investir en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré Muldoko lors de l'accueil de 21 ambassadeurs des pays de l'Union européenne dans la principale salle de réunion de Binagraha du bureau du personnel présidentiel lundi. Muldoko invite les ambassadeurs des pays de l'Union européenne à être plus optimistes à investir en Indonésie et à aider la croissance économique de l'Indonésie sous la présidence de Joko Widodo. Les données de BKPM montre que les investissements des pays de l'Union européenne tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne, le Danemark et la Suède augmentent rapidement. L'Indonésie soutient pleinement la présence de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ou AWIB pour accélérer le développement dans les pays asiatiques. Le gouvernement s'est également engagé à continuer de travailler avec AWIB à l'avenir. C'est l'un des points présentés par le président Joko Widodo à la délégation de l'AWIB qui s'est rendue au palais présidentiel de Bogor dans l'ouest de Java lundi. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, expliquait que l'Indonésie était l'un des membres fondateurs de l'institution qui fonctionnait depuis le 16 janvier 2016. Actuellement, l'Indonésie est également l'un des principaux actionnaires d'AWIB. L'Indonésie a bénéficié de l'un des cofinancements de 3 autres pays au début de l'AWIB. L'armée aérienne indonésienne ou TNI AU et la Force aérienne du Pacifique ou US PASAF ont mené un exercice conjoint avec le COP-West et Spear Iron. Cet exercice conjoint était marqué par la cérémonie d'ouverture à la base aérienne de Samratulangi, Manado, lundi. Le joint chef d'état-major d'opération de la force aérienne, le général de brigade aérienne Anang Nur Hadi Susilo, dans son discours, a dit qu'à travers de cet exercice, les délégués, en particulier des États-Unis, peuvent profiter de l'expérience pendant l'exercice à Manado. Selon lui, le but de cet exercice est d'améliorer les capacités et fournir une expérience aux pilotes sur la mise en œuvre des procédures d'opération aérienne conjointe. Cette activité vise également à intensifier les relations amicales, mutuelles et respectueuses mutuelles entre l'armée aérienne de l'Indonésie et des États-Unis. L'ouverture de l'exercice a été assistée par l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Robert Joseph Donovan Jr. l'exercice conjoint a lieu du 12 mars à 23 mars 2018, impliquant des centaines de personnels militaires et des dizaines d'avions de ces deux pays qui sont divisés en deux types d'exercices. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, la facilité d'impôt pour pousser l'investissement. Le gouvernement indonésien encourage avec enthousiasme les investissements qui sont une partie importante et favorable de l'économie d'un pays. Pas étonnant, le gouvernement indonésien tente d'augmenter les investissements nationaux et internationaux. Par conséquent, en plus de fournir des infrastructures, le gouvernement a également publié plusieurs politiques économiques depuis 2015. Jusqu'en 2017, il y a eu 16 volumes de paquets politiques. Certains d'entre eux visent à soutenir et à encourager l'investissement. En outre, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Finances, est en train de finaliser 4 nouveaux règlements qui seront bientôt ratifiés dans les prochaines semaines. L'objectif est d'accroître l'investissement, comme exprimé par le président Joko Widodo, dans l'objectif de croissance économique en 2018. Les 4 règlements concernent tax holiday ou les incitations fiscales sous la forme d'exemption d'impôt sur le revenu, tax allowance ou l'octroi de déduction fiscale, l'impôt des petites et moyennes entreprises ou PME et des incitations pour les entreprises qui mènent la recherche et le développement ainsi que la vocation. Avec son vaste territoire, l'Indonésie a besoin beaucoup de capitaux pour s'assurer que toutes les régions disposent de fonds suffisants pour le développement. De plus, l'Indonésie est un pays archipélagique, de sorte que le développement pourrait être entravé pour des raisons d'accès et de mobilité. En fait, l'Indonésie a une richesse naturelle et un très grand potentiel. L'emplacement stratégique entre les deux continents, l'Asie et l'Australie et les deux océans, l'Inde et le Pacifique, est également l'avantage de l'Indonésie sur le marché international. Par conséquent, le gouvernement est de plus en plus conscient de l'importance de l'investissement étranger dans le développement de l'Indonésie. En plus d'exploiter une grande superficie, les investissements étrangers peuvent également avoir de nombreux impacts positifs pour l'Indonésie. Le nombre d'investisseurs étrangers qui viennent et investissent en Indonésie ne doit certainement pas être séparé de l'attitude du gouvernement de fournir la facilité et des allocations fiscales. Comment les investisseurs étrangers vont-ils investir leur capital en Indonésie si le gouvernement impose un système fiscal contraignant, surtout s'il n'y a pas de facilité adéquate? Même si l'investissement étranger est nécessaire pour stimuler et promouvoir l'économie indonésienne, il doit être fait de manière ordonnée et conformément à la loi sur l'investissement. Ne laissez pas l'investissement étranger même nuire au pays et à la nation de l'Indonésie à l'avenir. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteur, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire aujourd'hui avec l'événement Le secte Children of God est interdite par le procureur général le 13 mars 1984. Children of God, qui est connu sous le nom de Family of Love ou la famille de l'amour, et maintenant la famille internationale, est un nouveau mouvement religieux qui a commencé en 1968 à Huntington Beach, Californie, les États-Unis. La plupart de ses membres venaient du mouvement hippie. En Indonésie, Children of God a été interdit par le procureur général Ismail Saleh en 1984. Untuk information, esok le professeur Sarbini Sumawinata est mort le 13 mars 2007. Le professeur Sarbini Sumawinata était un dirigeant socialiste. Le professeur Sarbini Sumawinata est l'économiste et professeur à la faculté d'économie de l'Université d'Indonésie. Il développe l'économie de la communauté afin d'améliorer le bien-être des populations rurales. Les pays doivent investir massivement pour détruire les restes de la féodalité et le colonialisme qui continuent d'entraver la population rurale. Sarbini recommande également des étapes de la modernisation dans le domaine de l'industrialisation agricole. Il a joué un rôle important dans la vie de l'État, car en 1965, il a été l'un des premiers à introduire le concept de développement économique au général Suharto. Sarbini a également préconisé diverses mesures de modernisation dans l'agriculture. L'industrialisation populiste couvrant tous les secteurs de la vie villageoise, tels que l'agriculture, la pêche, le commerce, les transports, la banque, doit être construite pour améliorer le bien-être des villageois. Le professeur Sarbini Sumawinata est décédé à Jakarta le 13 mars 2007 à l'âge de 88 ans. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le tremblement de terre Erzincan a frappé l'est de la Turquie sur 6,7 l'échelle de Richter le 13 mars 1992. Le tremblement de terre a fait au moins 898 morts et environ 2000 blessés. La perte financière totale atteint 13,5 millions de dollars américains. Serviteur, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Secrétaire, pour la rubrique suivante, nous vous présentons maintenant Mon Indonésie ayant pour le titre MPR augmente la socialisation de quatre piliers. L'Assemblée consultative du peuple ou MPR continue à améliorer la socialisation des quatre piliers nationaux tels que Pancasila, la Constitution de 1945, Bhinneka Tunggal Ika est l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, dans diverses régions d'Indonésie. Cité par la page mpr.go.id, MPR a mené la socialisation des quatre piliers à Bandung, Jawa West, le 10 mars, assisté entre autres par environ 300 dirigeants et les membres de l'Association des entrepreneurs indonésiens musulmans ou IPMI de Bandung, y compris les femmes des membres d'IPMI. Cette socialisation a été ouverte par le secrétaire général du MPR, Ma'ruf Cahyono. Ma'ruf a dit qu'en fait, la socialisation des quatre piliers était déjà en cours, déjà terminée. Tous les membres du PMI étant entrepreneurs avec une vision remarquable, l'indépendance économique de la personnalité indonésienne. Selon Ma'ruf, la vision idéale conformément à la vision de l'Indonésie à l'avenir est conformément aux valeurs des quatre piliers. La résilience idéologique est très importante pour faire face à une concurrence étant très forte de l'extérieur ou de l'intérieur. Le peuple indonésien doit avoir et maintenir la résilience de l'idéologie. Si le peuple indonésien n'a pas cela, on ne peut pas réaliser l'Indonésie indépendante et l'Indonésie qui a une personnalité. Les jeunes aujourd'hui et à l'avenir sont l'espoir d'être en mesure de posséder et maintenir la résilience de cette idéologie. Selon Ma'ruf, la vie aujourd'hui est le domaine de la vie mondiale. On ne peut pas éviter, mais le plus important, il ne faut pas oublier leur identité nationale. Si cette nation a déjà la résilience de l'idéologie, elle doit aussi avoir de la compétitivité. Selon Ma'ruf, si la jeune génération ne devient pas la génération intelligente, elle n'est pas une génération optimiste et non unifiée. L'Indonésie ne peut pas rivaliser avec les autres nations. Il doit être une jeune génération ayant une résilience idéologique et une grande compétitivité. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'IPI priorise des recherches liées aux objectifs de développement durable ou ODD. La diplomatie scientifique doit donner une solution aux problèmes mondiaux. Le ministère du Commerce a saisi 5 tonnes de grains d'ail emportés. KSP garantit la stabilité économique et politique pour l'investissement. Le gouvernement indonésien encourage la WIB à soutenir l'accélération du développement des pays d'Asie. Et enfin, l'exercice conjoint entre l'armée aérienne indonésienne, TNI AU et US PASAF à Manado. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCA.
Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec Le Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la ville Kuningan à Java West. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la Voix de l'Indonésie. Kuningan est connue comme ville de chevaux. Cette ville a beaucoup de cascades exotiques et incroyables. L'une d'entre elles est la cascade Putri Palutungan. La cascade est adaptée pour ceux qui ont un esprit aventureux. Elle peut également fournir une sensation de vacances différente et amusante. La cascade Putri Palutungan est située dans la forêt au pied du Mont Ciremai. La cascade Putri est également l'une des voies d'escalade au sommet de Ciremai. Bien que le chemin soit le plus long, mais la plupart des grimpeurs préfèrent à passer cette cascade parce que la route est la plus facile. La distance de la cascade du poste de garde du parc national Mont Ciremai n'est pas très loin, à quelques dizaines de mètres. La forêt touristique, qui couvre une superficie totale de 50 hectares, est gérée par la Société anonyme forestière de la résidence Kuningan. Cette cascade, aussi haute que 20 mètres, a beaucoup de noms, y compris la cascade Putri, cascade Ciputri, cascade Ciputri et cascade Putri Palutungan. Lorsqu'elle est considérée avec soin, cette cascade ressemble à une mariée avec une robe blanche. C'est ce qui fait qu'on l'appelle la cascade Putri. La communauté croit la légende qui se propage que la cascade Putri est le lieu de baignade des anges du ciel. Quand la pluie tombe et que le soleil brille, la cascade Putri montre le magnifique arc-en-ciel à l'écart des arbres. Rak ang siel e sekelap lupak de jang kwa kom ang pong prukele zang de sang de suk ter. La cascade poutrie est censée d'avoir l'efficacité pour soigner les maladies osseuses et être capable de se rapprocher du compagnon et du travail. Cependant, beaucoup croient également que la cascade poutrie peut guérir mille maladies. Beaucoup de gens viennent à la cascade poutrie pour demander des bénédictions. Alors, ne soyez pas surpris si le visiteur laisse le corps se frapper par des chutes d'eau. L'emplacement de la cascade poutrie est en retrait et entouré d'arbres luxuriants et de falaises abruptes. À gauche de la cascade, les visiteurs trouveront un grand banyan qui peut servir d'abri. Devant lui, il y a une piscine pour accueillir une cascade qui n'est pas trop profonde. Parce qu'il est assez peu profond, il peut être utilisé pour la baignade et la natation. La distance de la cascade poutrie du centre-ville Kuningan est à seulement 10 km et peut être atteinte dans 30 minutes. L'accès à la cascade est facile à atteindre car la route est déjà pavée. Bien que pas trop large et sinueux, il est adéquat pour tous les types de véhicules à passer. La route vers la cascade poutrie est en ligne avec la grotte Maria située à Totombok, Cisantana. La distance de la grotte Maria est seulement quelques kilomètres. Les installations publiques à la cascade poutrie sont assez complètes. Il y a des toilettes publiques, des lieux de culte, des parkings, des stands de nourriture et des centres d'information. Autres installations complémentaires sont des installations sportives, terrains de camping et zones de sortie. La cascade poutrie a son propre charme. La légende sur l'existence des anges et l'efficacité d'une cascade qui peut amener un compagnon rend tout le monde curieux de lui rendre visite. Chers amis, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous les auditeurs. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien. Une rubrique qui vous introduit le vocabulaire indonésien et vous guide pour parler en bahasa Indonesia. Cette émission est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, station de radiodiffusion à l'étranger avec l'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est pelayanan kamar hotel ou en français, le service de la chambre d'hôtel. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation dont le titre est « Pelayanan kamar hotel » ou en français est « Le service de la chambre d'hôtel ». Comme d'habitude, je vais prononcer doucement et lentement chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. La conversation par le téléphone se passe à l'hôtel entre Tony qui vient d'Angleterre et la réceptionniste de l'hôtel. Réceptionniste. Selamat malam dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu? Tony, malam, saya perlu pengering rambut, boleh saya pinjam? Resepsionis, pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Tony, oh baik, saya lihat dulu, terima kasih. Resepsionis, sama-sama. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des expressions liées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Saya perlu pengering rambut. Saya perlu pengering rambut. En français, j'ai besoin de sèche-cheveux. Boleh saya pinjam pengering rambut? Boleh saya pinjam pengering rambut? En français, pourrais-je emprunter un sèche-cheveux? Laci, laci. En français, tiroir. Laci lemari, en français, tiroir d'armoire. Pengering rambut ada di laci lemari. Pengering rambut ada di laci lemari, en français, sèche-cheveux est dans le tiroir d'armoire. Saya lihat dulu, en français, je vois d'abord. Perlu, perlu, en français, avoir besoin de. Handuk, handuk, en français, une serviette. Baru, baru, en français, nouvelle. Handuk baru, en français, la nouvelle serviette. Sisir, sisir, en français, peigne. Pour demander quelque chose dont vous avez besoin, utilisez le mot perlu ou butuh. Saya perlu pengering rambut. Saya perlu pengering rambut. En français, j'ai besoin de sèche-cheveux. Saya butuh pengering rambut. Saya butuh pengering rambut. En français, j'ai besoin de sèche-cheveux. Saya perlu handuk baru. Saya perlu handuk baru. En français, j'ai besoin de nouvelle serviette. Saya butuh sisir. Saya butuh sisir. En français, j'ai besoin d'un peigne. Serviteurs, avant de terminer à prendre l'indonésien aujourd'hui, dont le sujet est pelayanan kamar hotel ou le service de la chambre d'hôtel, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation. Réceptionniste, selamat malam dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu? Tony, malam, saya perlu pengering rambut, boleh saya pinjam? Réceptionniste, pengering rambut ada di laci lemari, Pak. Tony, oh baik, saya lihat dulu. Terima kasih. Resepsionis, sama-sama. Serviteur, dans la rubrique Apprendre l'Indonésien, nous allons également organiser un quiz dont le prix est intéressant. La question est, mentionnez votre nom, votre pays d'origine et votre adresse. S'il vous plaît, répondez aux questions demandées en donnant d'abord une salutation et envoyez votre enregistrement vocal à notre adresse email à voi@voinews.id. Comme par exemple, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Bon, serviteur, c'est à prendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus indonésien. On se retrouve demain avec un autre sujet plus intéressant. À demain! Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous avons sélectionné les 100 songs traditionnels d'Aceh chantés par Lisa Aulia et Rafli. Bon, serviteur, pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée Katieden. Bonne écoute. Sekretar Katia Den Elun de Sangson kontenu dans l'album Kutiding, le premier album qui a popularisé le nom de Liza Aulia, en particulier dans la région d'Aceh. En plus d'avoir un caractère vocal distinctif et fort, Liza est également capable de composer des chansons comme la chanson Katia Den. Les belles femmes qui portent ce hijab font souvent la performance dans les villes de la région d'Aceh. Depuis le lycée, Liza joue en feuilleton éducatif diffusé à la télévision nationale TVRI. Bien qu'elle n'ait pas encore publié beaucoup d'albums, le chant n'est pas une nouvelle chose pour elle. Depuis l'enfance, Liza avait l'habitude de chanter, même elle a appris à lire des paroles de la chanson en karaoké. Pour Liza, le chant n'est pas seulement un passe-temps, mais aussi une forme de responsabilité morale en tant qu'artiste. Selon elle, l'art est l'identité d'une nation. Donc, Liza Aulia sera cohérente dans la musique d'Aceh. Bon, serviteur, nous écoutons une chanson d'Aceh intitulée Anak Yatim, chantée par Rafli. Bonne écoute.
Sabar ngontabah, ngontabah, dodo bagi
Sagri Talk, c'était la chanson Anak Yatim de Rafli. Cette chanson est jouée souvent lorsque le tsunami a frappé Banda Aceh. La chanson intitulée Anak Yatim contient des gémissements d'orphelins. Rafli commence à être connu comme un chanteur d'Aceh quand il a sorti un album intitulé Hassan Hussein. Son carrière comme chanteur d'Aceh n'est pas facile. Avant d'entrer avec succès dans l'enregistrement, Rafli a eu la chance de chanter dans des cafés à Aceh. Sa couleur vocale distinctive et aiguisée est devenue ses propres avantages pour lui. Dans ses chansons, Rafli a essayé de combiner la musique traditionnelle d'Aceh avec la musique moderne. La chanson Anak Yatim a également été jouée lors de la commémoration du tsunami à Aceh. Bon, secrétaire, avant de terminer notre programme, voici donc les dernières chansons intitulées Hati ke Allah de Liza Aulia et Dara chanté par Rafli. Bonne écoute et à bientôt.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french. Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.